Dossier 7. Épreuve orale collective. Lisez les questions, puis cochez la bonne réponse.
France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau.
Un avant-goût des lectures d'Aurélie, Sonia et Laurence, les lectrices du jour qui vont éclairer les échanges du Book Club. Bienvenue Sybille Grimbert.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes romancière, éditrice. Vous avez publié en septembre dernier votre 11e roman intitulé Le dernier des siens aux éditions Anne Carrière. Roman salué par la critique et primé à 2 reprises. Vous avez reçu le prix littéraire de 30 millions d'amis en novembre et il y a quelques jours, le prix littéraire de la Fondation François Sommer. Vous racontez dans ce roman la rencontre entre un homme et un pingouin. Saviez-vous plutôt que cette relation homme-animal pouvait autant toucher les jurys et les lecteurs et lectrices?
Non, c'est pas comme ça que je pensais les choses. Je trouvais que c'était une relation touchante et même totalement passionnante. Donc logiquement, comme je ne pense pas être très très particulière, je me disais que si moi ça m'intéresse, ça pouvait intéresser d'autres gens. Mais c'est d'abord parce que ça me passionnait personnellement que j'ai pensé l'écrire. Et il se trouve que ça tombe à un moment donc où effectivement c'est un thème qui semble-t-il passionne beaucoup de monde.
On va demander à notre autre invité pour évidemment discuter, échanger. On a convié l'écologue, directrice de recherche au CNRS, Anne-Caroline Prévost. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez au Centre d'écologie et des sciences de la conservation, qui est situé, si je ne dis pas de bêtises, au Muséum national d'histoire naturelle. C'est le premier point commun qu'on a relevé avec le héros du roman de Sybille Grimbert, le dénommé Auguste. Ou Gus, on y reviendra évidemment, ce jeune scientifique qui dépend lui du musée d'histoire naturelle de Lille et qui n'y met pas beaucoup les pieds puisqu'il est souvent en mission sur le terrain. Il est plutôt, et là je vous cite, au contact de la nature. C'est l'idée que vous défendez dans ce livre collectif que vous avez dirigé avec la philosophe Cynthia Fleury, livre intitulé « Le souci de la nature, apprendre, inventer, gouverner » qui reparaît chez CNRS Éditions au format Bibli, c'est-à-dire au format poche. Ce contact avec la nature, c'est votre second point commun avec ce héros. Qu'est-ce que ça veut dire ce contact avec la nature pour vous ?
Ouais, c'est vrai que pour nous, le contact avec la nature, c'est plutôt ce qu'on appelle des expériences de nature. Et donc comment est-ce que quand un individu humain, un homme ou une femme, entre en expérience avec du vivant non humain, qui peut être soit un individu d'une espèce animale, comme dans le cas de votre roman, ou des végétaux, ou voir un écosystème, voir un paysage, et comment cette rencontre, puisque je parle plutôt de rencontre, peut avoir des conséquences pour l'individu humain, homme ou femme, qui la vit. Conséquences qui peuvent être à court terme, émotionnelles, cognitives, psychosociales, mais aussi des conséquences à plus long terme, potentiellement de la transformation sociale, et c'est un peu ce qu'on voit dans votre roman aussi. Et puis ensuite, comment ces conséquences, elles peuvent avoir cette rencontre, elle peut avoir des conséquences plus larges, à la fois pour le groupe social, parce qu'on va en parler, et puis potentiellement pour la nature elle-même et dans les relations qu'on a avec elle, parce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se passer après.
Un mot avant de se plonger dans le roman de Sybille Grimbert, écologue, est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition de ce terme qu'on entend de plus en plus et qu'on a du mal à définir? Ça veut dire quoi?
Donc l'écologie scientifique, c'est une discipline scientifique qui cherche à comprendre le fonctionnement du vivant non humain. Donc ça, que ce soit donc à tous les niveaux, génétique, spécifique, écosystème, tout ça. Mais c'est vrai que dans l'écologie scientifique, l'humain est considéré comme une force extérieure au phénomène non humain. Alors moi, j'ai une formation d'écologue, mais depuis plus de 15 ans, je travaille en relation entre les humains et ce fonctionnement de non humain, et dans ce qu'on appelle plutôt des socio-écosystèmes. Donc à la fois, on essaie de plus en plus, l'écologie scientifique a compris quand même que c'était pas trop possible de séparer les humains des non humains. Et donc notamment les biologistes de la conservation dont je suis, qui essayent de comprendre comment les interrelations entre les sociétés humaines et les autres composantes du vivant peuvent aider à résoudre, enfin à comprendre ce qui se passe en ce moment, la crise écologique et la crise sociale, et puis proposer des pistes.
En 2023 donc, et grâce à votre roman Sybille Grimbert, on se plonge en 1835. D'abord du côté des Orcades et puis aux îles Féroé, on rencontre Gustave, ce jeune scientifique qui va très rapidement faire la connaissance, et nous avec, de celui qu'on va appeler Prosperus ou Prosp. C'est notre livre qu'a lu Sonia de Puteaux. On écoute.
La lecture du roman de Sybille Grimbert, Le dernier des siens, est une expérience magnifiquement singulière, tant cette improbable amitié entre Gus, un naturaliste français, et le pingouin Prosp est fascinante. Nous sommes au 19e siècle, et Gus va en effet découvrir que Prosp, ce pingouin qu'il sauve d'un massacre sur une île islandaise, est le dernier des siens, le dernier de son espèce, le dernier des grands pingouins à vivre sur Terre. Et il ne va pas avoir d'autre choix que d'endosser la responsabilité de sa survie. L'affection qui va se nouée entre Gus et Prosp est absolument bouleversante de réalisme. Il y a les attitudes, les intentions et les sentiments que Sybille Grimbert prête au pingouin dans cette relation qui sont littéralement convaincants sans jamais verser dans la caricature animalière. Outre cette amitié, le roman interroge sur la disparition des espèces animales et sur la responsabilité des hommes dans cette extinction, ce qui nous parle particulièrement à l'heure où notre planète est plus vulnérable que jamais.
Voilà, l'actualité de votre
formidable.
De votre roman et ce que Sonia en a pensé. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce qu'elle vient de dire ?
Le fait qu'elle a absolument réussi, ce que moi je n'arrive jamais à faire, c'est à bien résumer le livre en y mettant les deux points fondamentaux qui sont effectivement le dernier et l'homme. Et c'est en ça que nous nous rejoignons. C'est aussi un livre centré sur un homme. Et c'est là où je suis très très touchée par ce que dit Sonia. Mais en fait, c'est pas tellement. Enfin, tous les sentiments du pingouin qu'elle a trouvé convaincant, j'en suis très touchée, sont en fait vus par Gus. Par l'être humain, c'est-à-dire que après tout, on pourrait tout à fait imaginer qu'il y a un malentendu total. Peu importe d'ailleurs, parce qu'en même temps, je pense qu'il y a aussi une affection mais c'est ça qui permet de rendre le pingouin crédible.
Et d'ailleurs, au début de votre roman, ce pingouin, il est plutôt effrayant. Gus, il a même peur de lui. Il parle de son œil marron ou noir, très foncé, qui le fixe, qui est franchement hostile. On parle de son bec crochu, de son cri rauque. Donc, le début de cette rencontre, elle est pas évidente.
Non. Et au fond, j'y ai pensé a posteriori. Mais au fond, non. Au début, quand Gus récupère ce pingouin, c'est un homme de son époque, il n'a pas de sensibilité particulière aux animaux, il n'est pas contre, il n'est pas pour. Mais enfin, il n'aurait jamais imaginé se lier avec un animal et a fortiori un oiseau sauvage. Mais à force de l'observer, puisqu'au début c'est un objet d'observation, le pingouin pour lui, à force de l'observer, donc de se familiariser avec lui, il va se mettre à l'aimer. Et au fond, je crois que c'est ça qui est le sujet et qui justifie que nous soyons toutes les deux invitées. C'est que regarder, en fait, on se met à regarder quelque chose qui était toujours là. Mais simplement avant, on ne le voyait pas. Et il voit quelque chose qui était toujours là, c'est-à-dire un être vivant, un animal. Et du coup, je crois que c'est assez naturel et comme toujours, il se met à l'aimer. Et c'est ça qui fait le lien. Et au fond, c'est ça qui fait l'écologie, l'éthologie.
Est-ce que c'est une expérience scientifique qui est en train de vivre Auguste dans ce roman, Anne-Caroline Prévost ?
Est-ce que je ça, suis, ça... Je suis pas sûre qu'on puisse parler de scientifique au sens... c'est compliqué votre question.
Est-ce que vous vous retrouvez dans cette façon-là ?
Je me retrouve complètement dans cette façon-là, mais par contre, c'est pas scientifique au sens caricatural du terme scientifique. Et souvent, comme on entend scientifique en disant la science c'est différent de l'émotion et c'est rationnel, etc. Ici, c'est une expérience émotionnelle, mais qui en même temps est une expérience émotionnelle qui apporte de la connaissance, qui apporte de l'attention, qui apporte du lien. Et tout ça, pour moi, on n'a plus le temps de séparer science, rationalité et émotion. Tout doit être lié. Et en ça, ce que vous venez de dire me fait penser à des choses qui sont dites par des scientifiques, notamment les scientifiques internationaux du GIEC de la biodiversité, là, l'IPBES, dans leur rapport en 2019, donc post l'écriture du livre Le souci de la nature. Et ils parlent de l'importance pour les transformations à venir de retrouver d'autres valeurs qu'on donne à la biodiversité ou à la nature, et notamment des valeurs relationnelles, en disant que finalement, le plus important, ce qui est important pour nous humains, c'est pas tant... Enfin, c'est à la fois l'existence du non-humain, c'est à la fois l'importance du non-humain pour en tirer des profits, mais c'est aussi la relation qu'on tisse avec eux et la relation qu'on tisse entre nous à propos d'eux. Et du coup, et ça, c'est en ça que votre ouvrage, enfin que votre roman, il est fort aussi, parce qu'il résonne au niveau scientifique avec le contexte actuel, hein, de la science.